Allons-y. Bienvenue tout le monde dans ce Skeptics in the Pub. Je vais m'attacher à vous présenter l'herboristerie telle qu'elle est maintenant ici dans notre espace vers 50 degrés nord de l'Europe. Et c'est pas simple en 45 minutes. D'ailleurs, je mets le timer. C'est pas simple en 45 minutes parce que c'est un univers assez foisonnant et on va le voir qui regroupe pas mal de pratiques professionnelles. Et je vous ai choisi en image d'introduction Sainte-Hildegarde, connue aussi sous le nom de Hildegarde de Bingen, qui est référencée, citée en tout cas souvent comme la mère de l'herboristerie en Europe. Et on voit tout de suite tous les défauts qu'on peut attribuer à ce genre de mouvance. Elle reçoit une illumination divine qu'elle tente de retranscrire et de communiquer à son brave acolyte qui lui-même va aller retranscrire et recommuniquer. Voilà. Alors, il y a le problème de l'illumination divine, évidemment. Quand ça vient du ciel, même la pluie, j'aime pas. Et quand c'est déformé au fur et à mesure de la transmission des recopies, ben j'ai toujours un petit signal d'alarme qui me fait attention comment ça a pu circuler tout ça. Voilà l'herboristerie. Alors il convient non pas que vous vous présentiez tous, mais au minimum que moi je me présente, qui se cache derrière cette barbe. Je vous ai mis le numéro de téléphone que vous pouvez utiliser là pendant encore trois quarts d'heure. Parce que parfois, il y a des questions qui sont plus difficiles à dire en public, à exprimer en public. Donc, ne vous gênez pas, je les relèverai après. Alors, mon nom, c'est Nicolas Barriot. Pour seul unique diplôme, pour ainsi dire, j'ai une agrégation d'enseignement secondaire inférieur, français, histoire, sciences sociales. J'ai travaillé pendant là 32 ans dans une école secondaire spécialisée avec des ados qui sont en psychiatrie, les troubles du comportement. Je fais de l'autoproduction végétale à titre de consommation personnelle depuis un peu plus de 30 ans. Et il y a quelques années, me sont arrivées deux choses dans le même temps. Le désir de me former à l'herboristerie et la découverte d'un documentaire, une interview plutôt de monsieur mon voisin sur Skepticon consacré aux médecines naturelles. Dans les médecines naturelles, évidemment, il citait l'herboristerie. Et nous ne sommes pas fâchés. Ensuite, j'ai été me spécialiser dans un des solvants couramment utilisés en herboristerie, c'est-à-dire l'eau. Et bizarrement, je n'avais jamais utilisé l'eau. J'ai aussi été me former une semaine à Metz en ethnopharmacologie. Donc là, pour alimenter un petit peu le corpus ethnologique et la relation entre les médecines traditionnelles, les médicaments traditionnels améliorés et qu'est-ce qui se passe ici dans le nord de l'Europe. Et alors, depuis un petit peu moins de deux ans, j'administre avec Chloé qui est ici présente une ASBL qui s'appelle Folia officinalis, dont je vais vous parler un petit peu tout de suite après. Alors, il convient aussi de parler de mon expertise médicale, c'est-à-dire que j'ai fait 8 saisons avec le docteur Oz et 5 saisons avec le docteur Sean Murphy. Autant vous dire que je n'ai rien du tout, vraiment rien du tout. On va en parler un petit peu après. J'ai moins de 80 heures de cours de physiologie, anatomie, diététique. C'est pour ainsi dire insignifiant. Donc voilà, l'herboriste en 2021, premier constat, il n'a aucune expertise médicale. Et c'est important de le dire, parce qu'on voit pas mal de soins, presque de diagnostics, d'accompagnement médical autour de nos techniques. Alors Folia officinalis, c'est une ASBL à laquelle je collabore avec grand plaisir depuis novembre ou décembre 2021. C'est surtout une bibliothèque. Alors, ça, c'est un truc auquel je tiens beaucoup, c'est les sources, dans quel bouquin on va les trouver, des informations, dans quel bouquin ne pas aller en chercher aussi, c'est important. Folia Officinalis, c'est aussi un site internet que Chloé anime très très bien, qui est le plus complet possible sur le paysage de l'herboristerie en Belgique. On anime aussi des ateliers, des conférences, des sorties. Et puis, on a une formation en 10 demi-journées qui est en cours de conception et qu'on devrait donner en 2024. On l'appelle TRP, Transformation raisonnée des plantes. Parce que nous pensons que l'herboriste, effectivement, a un champ d'activité dans la transformation des plantes. Mais il faut qu'elle soit raisonnée, il faut qu'on puisse aller chercher derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire et quelles vont être les limites de nos transformations. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? On ne va pas se priver de tirer sur certaines choses. Pardon. On va passer par un bref historique pour arriver à qu'est-ce que c'est qu'un herboriste en 2023 en Belgique, comment est-il formé, quelles sont ses réalités économiques législatives, qu'est-ce que c'est qu'une boutique, et j'utilise deux caricatures pour une boutique d'herboristerie, qu'est-ce que c'est que les ateliers. Un bref passage sur l'ensemble des phytothérapies, des gadéuniques et de quelques modernités. Les formations possibles, des prolongements. Évidemment, les liens avec les pseudosciences et la médecine moderne. La evidence-based medicine. Les impacts environnementaux et économiques de nos pratiques. Et, si on a encore bien le temps, une littérature utile à l'herboriste. Voilà, cet épisode de Lucky Luke m'a vraiment bien fait rire parce qu'on a toute cette mouvance de la pharmacie indéfinie à l'époque dans le paysage américain où ils ont inventé beaucoup, beaucoup de choses avec des gens qui tout à coup reçoivent des illuminations à l'appel. Alors, je vous ai mis là trois plantes qu'on utilise encore de façon fréquente en médecine, et trois plantes qui font partie du corpus de l'herboriste, sa materia medica, et qu'on ne peut plus utiliser. Il m'a semblé intéressant de les prendre pour vous montrer l'importance actuelle des plantes dans la médecine. La belladone, une plante toxique, voire mortelle, dont on tire l'atropine, utilisée autant en chirurgie qu'en ophtalmique. Le leaf, Taxus baccata, qui est utilisé dans l'oncologie, donc dans les chimiothérapies, et contre le rejet des greffes aussi, j'ai appris récemment. Et le pavot somnifère, qu'on connaît très bien avec tous les dérivés opiacés modernes ou anciens. Alors, évidemment, je vous l'ai dit, les herboristes n'utilisent plus ça. Encore connaissance de ça, ou encore accès à la documentation. Pour des raisons de toxicité évidente et de santé publique, ben on leur a dit, cher Coco, c'est bien beau vos tisanes, mais le IF, on ne peut pas le mettre dedans. Évidemment, c'était connu des herboristes, mais il a fallu à un moment donné légiférer. Alors, qu'est-ce qu'il en reste actuellement? On considère... C'est une source que j'ai été trouvée dans le rapport parlementaire français de M. Labbé, donc c'est le rapport 727, que 70% de notre pharmacopée est issue du monde végétal. Il semblerait que ce chiffre soit exagéré. Suivant les sources, on peut même tomber à 40%. Donc, évidemment, c'est difficile. Il n'y a personne qui va aller prendre l'ensemble de la pharmacopée européenne et case par case aller voir si le produit est encore d'origine végétale ou si c'est une molécule qui copie la molécule végétale. Voilà. Une bonne part de notre pharmacopée est issue du monde végétal et l'ensemble du monde végétal qui n'y est plus, ben, ça fait 50 ans qu'il n'y est plus, 70 qu'il n'y est plus. Alors, une autre affirmation de ce rapport parlementaire, que je trouve tout aussi abusive, il n'existe pas de domaine thérapeutique dans le monde, dont le monde végétal soit absent. Ben, c'est évacuer un petit peu vite l'orthopédie, par exemple, sauf à considérer que le plâtre soit une forme de lithothérapie. Ou la radiothérapie, voilà, on n'utilise pas de végétaux, là. Bon. Mais Mais la thérapeutique moderne, on peut affirmer qu'elle utilise encore grandement le monde végétal ou les idées du monde végétal. Si ma voix baisse et que vous n'entendez plus bien dans le fond, vous faites signe, hein. Ça va ? Ok. Alors d'où ça vient tout ça ? Ben, on a le premier document historique concernant une materia medica complète, c'est le papyrus d'Héber, c'est 1500 avant l'an 0, en moins 1500, en Égypte. Alors pour ceux qui iront creuser, la découverte de ce manuscrit reste assez mystérieuse. Il est tout à coup apparu en état de conservation extraordinaire. Il ne s'agit apparemment pas d'un faux, mais il est quand même dans un état de conservation vraiment extraordinaire. Il s'agit d'une compilation de remèdes qui est née dans une société magico-religieuse. L'Égypte antique, les dieux sont présents dans tous les événements de leur vie. Et cette présence magico-religieuse est dans l'herboristerie jusqu'au XIXe siècle, pour ainsi dire. C'est déjà un recueil empirique. Ils ont déjà été là où le rédacteur, on suppose que c'est un seul rédacteur, le rédacteur a déjà été chercher de multiples sources. On en a retrouvé des plus disparates du côté de Sumer avant ça, bien avant ça. Et il recense là 700 formules magiques, remèdes, pour lutter contre les maladies. Alors il faut quand même considérer qu'il est légitime pour l'humain de lutter contre les maladies, de chercher à recouvrer la santé ou éventuellement à l'améliorer. Alors qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? On trouve des plantes, évidemment, mais on trouve aussi toute une série d'animaux, d'excréments, d'animaux, d'insectes, et puis des prières. Mais on trouve aussi les premières préparations qui sont codifiées, et ça c'est très intéressant pour la suite de l'histoire. Alors, dans l'Antiquité plus méditerranéenne, on va avoir le père de la médecine Hippocrate qui, lui, recense 230 plantes, directement liées à sa théorie des humeurs. Et cette histoire d'humeur liée aux plantes va nous embarrasser pendant tout au long de l'histoire de l'herboristerie aussi. On a Dioscoride, et là, c'est une immense influence jusque Hildegarde de Bingen et les autres qu'on va citer au Moyen-Âge. 500 plantes, c'est un corpus vraiment nourri. Il va pouvoir influencer plus tard les musulmans, les juifs, les chrétiens de toute notre nord de l'Europe en sera nourri. Alors Galien, lui, il va vraiment se limiter aux plantes. Il va sortir de tout le corpus, les animaux, les sécrétions animales aussi. On est au IIe siècle après Jésus-Christ, hein, pour situer un personnage historique. Donc, on a déjà là la fin de l'Antiquité, pour ainsi dire. Il reste aussi sur une théorie des humeurs. Et il va donner son nom aux formes galéniques. Pour ceux qui connaissent un petit peu la pharmacie, les formes galéniques n'ont pas tellement évolué en bientôt 2000 ans. Hein. Voilà. On va en parler des formes galéniques un petit peu après. Alors, on va passer dans le Moyen-Âge, et on a là l'école de Salerne, qui va de un évoquer la préservation de la santé, et non pas aller lutter contre la maladie, et qui va populariser la question de l'autonomie en distribuant des petits feuillets qui ont circulé dans le sud de l'Italie. Donc là, les, entre guillemets, guérisseurs, en tout cas les personnes qui vont transformer les plantes en lien avec une maladie, vont avoir une circulation de documents plus intense. Alors on a Avicenne dans le monde arabe qui, lui, va aller trouver d'autres modes de transformation des plantes, dont les essences, la distillation. On a chez nous notre brave Hildegarde de Bingen qui, elle, va aller réintroduire les animaux, prêter des vertus magiques aux pierres. C'est d'ailleurs très amusant d'aller lire, par exemple, comment naissent les agates. par Hildegard de Bingen. Je vais vous caricaturer ça, hein, mais c'est par un beau matin, quand il y a de la rosée, au bord d'un ruisseau, la rosée se dépose et les agates naissent. Voilà, et on peut prêter aux agates toute une série de propriétés. Évidemment, ça ne nous sert pas dans l'herboristerie. Hein. Grosse influence hein, aussi, Hildegard de Bingen, avec un retour dans toute la mouvance New Age, dont vous avez déjà certainement entendu parler. Et alors, dans le monde juif, là, on va avoir la personne qui a été popularisée sous le terme le Ramdam, et qui est Moïse Maïmonide, et qui va être une sorte de zététicien avant l'heure, parce qu'il va dire la magie dans la maladie, ça compte pas, ça joue pas. Pourtant, il était très influencé par le Talmud, et on sait que le Talmud a au minimum, connotation magique dans sa lecture. Et alors Paracels, qui va aussi bien nous embarrasser avec tout son côté alchimie, et surtout la théorie des signatures, parce que ça, on l'a traîné longtemps derrière nous. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, si la feuille de la pulmonaire ressemble tant à un poumon, ben, c'est qu'elle a certainement de l'action sur le poumon. Donc, voilà, ça vaut ce que ça vaut, en tout cas pour l'époque. Il n'a pas fait que des conneries non plus, le monsieur. Il aurait quand même diminué grandement la consommation des métaux lourds dans la médecine, sans toutefois dire on arrête. Mais voilà. Théorie des signatures, on a été longtemps embarrassé avec cette notion-là. On l'est encore dans beaucoup de domaines, ça revient sans arrêt. Si vous ouvrez un livre d'herboristerie un peu traditionnel, magique, vous allez lire des mots tels que théorie des signatures. Alors le 19e siècle, ben ça c'est chouette parce qu'on va découvrir les alcaloïdes. Alors comment on fait ça ? Ben, on se rend compte que dans les plantes médicinales, il y en a qui ont un effet drôlement fort, voire mortel, sur les êtres vivants, dont l'humain. Ça les mène à des délires, à des hallucinations. Donc on va se pencher sur cette gamme de produits. Et on isole assez facilement les alcaloïdes. Puis on va isoler toute une série d'autres molécules extraites des plantes avec des grandes vedettes. L'acide salicylique qui a donné notre aspirine, aspirine dont le nom vient de Spirea filipendula, qui est devenu Ulmaria filipendula. Donc Spirea, aspirine, l'acide inuline qui vient de l'aulnée. J'espère ne pas dire de bêtises, hein, c'est toujours... Des molécules vraiment fondamentales pour la médecine, telles que la quinine, la strychnine, la colchicine, la digitaline, des substances actives très très fortes qu'on va pouvoir aller utiliser ou tester dans le monde de la psychiatrie, de la médecine héroïque, pendant les guerres évidemment. C'est très intéressant d'avoir des opiacés pendant une guerre. Ça permet de couper un membre sans que le blessé ne hurle de trop. Hein. Voilà. Et puis, on en est arrivé à de la synthèse de molécules sur base de ce qui existe déjà ou sur base de ce qui n'existe pas. Et donc du design moléculaire pour la pharmacie à usage médical. Voilà. Les alcaloïdes, c'est une grande famille qui a souvent beaucoup de propriétés actives et donc souvent beaucoup de toxicité et qu'on reconnaît grâce à un atome d'azote dans la molécule. Vous voyez le petit N là-haut. Ben, en général, quand on voit ça, on doit se dire « Tiens, ça va être drôlement actif. » Voilà. Alors actuellement, comment on en arrive à devenir herboriste ? Alors qu'est-ce que c'est un herboriste plutôt ? Alors on a une définition belge, on a une définition française. Définition belge, c'est les gens qui assurent du conseil de la vente. C'est important. De produits liés au bien-être, le plus souvent à base de plantes, de substances naturelles, voire issus de l'agriculture biologique. En fonction des demandes des clients, donc il y a des clients qui demandent des choses, c'est important aussi, on va recommander des produits adaptés, tout en étant conscient des limites d'utilisation, des risques liés à une utilisation abusive. Les herboristes peuvent aussi récolter, transformer directement les plantes grâce à des techniques de production adaptées afin de produire divers remèdes. Ils l'ont mis entre guillemets parce qu'effectivement, c'est embarrassant dans la définition. Et préparation. Remède, c'est embarrassant parce que soit on tombe sur... c'est un truc de charlatanisme, c'est un remède. Ou bien on tombe sur vraiment un produit qui est mis sur le marché et on est dans 9 cas sur 10 dans l'illégalité par rapport à la pharmacie. Donc je vous ai repris les 4 grandes actions. Conseiller, vendre, récolter, transformer. En France, ils ont été un petit peu plus subtils dans leur rapport parlementaire. Je cite ce rapport parlementaire parce qu'il a, il a ces dernières années, donc il date de 2017, je ne sais plus. Enfin, il a vraiment fait date dans la réflexion autour du métier d'herboriste. Et donc là, on a un document intéressant à aller consulter. On a non plus un, mais des métiers de l'herboristerie. Je crois qu'ils sont plus proches de la réalité que la définition belge. Donc on a effectivement la vente des plantes, vente de produits à base de plantes, toute une filière du producteur au transformateur jusqu'au circuit de commercialisation en passant par les domaines de la cueillette, de l'agrotourisme ou encore de la formation qui se reconnaît derrière ce terme. Avec 3 catégories d'acteurs, évidemment le pharmacien repris en premier. Et une autre date que je n'ai pas citée dans l'histoire de l'herboristerie, mais depuis 1941, en France, on ne délivre plus de diplôme d'herboriste, la délivrance des plantes médicinales étant réservée à la pharmacie si elle est dans un usage thérapeutique. Alors, on n'a pas que l'usage thérapeutique. Ouf. Il y a des herboristeries de comptoir. En France, on en compte une 50aine encore, donc vous imaginez pour le territoire de la France, c'est vraiment plus beaucoup. Mais on a aussi toute une série de magasins bio qui viennent faire le relais de vente de plantes séchées, de tisanes ou de produits à base de plantes. Et alors on a à l'époque environ 750 paysans herboristes, producteurs, cueilleurs, métiers fort difficiles qu'on évoquera un tout petit peu après. Alors, les réalités économiques, pour passer tout doucement à ça. Un herboriste, il ne sait pas être herboriste s'il n'est pas en activité économique. C'est aussi simple que ça, à un moment donné. Il faut être soit enregistré en entreprise, ou ASBL, hein, aussi, ça existe, ou employé d'une entreprise. Alors, cette entreprise, elle va s'inscrire dans un marché plus global, qui est... assez rude, parce qu'il y a des charges, parce que pour ouvrir un magasin, il faut payer un loyer. Il y a des charges sociales pour pouvoir travailler. Il y a de l'électricité, il y a des fournisseurs à honorer. Et pour faire face à ça, on va faire des rentrées. On va vendre des produits, on va vendre des services. Et on va espérer dégager au final un résultat, parce qu'il ne s'agit pas de juste couvrir les charges et payer les fournisseurs. Hein. Donc on va essayer de dégager un résultat pour l'attribuer soit à son économie domestique, soit à de la formation, c'est plus mon cas, de l'achat de matériel de production. Voilà. Et puis il y a la notion de chef d'entreprise derrière tout ça. C'est-à-dire que l'herboriste qui va ouvrir une boutique, qui va lancer une entreprise avec un pignon sur rue, ben il va décider d'un peu tout dans sa boutique. Et s'il ne couvre pas ses charges, il va faire rentrer une autre gamme de produits qui n'est pas typiquement celle à laquelle il croit ou son core business d'herboriste, mais que les clients demandent. Vous connaissez hein, la loi de l'offre et de la demande. Alors, ce n'est pas toujours équilibré. Et donc, on va le voir, ben, il y a beaucoup de boutiques d'herboristerie qui font appel à tout un panel de produits qui ne sont pas de l'herboristerie, mais qui se vendent et qui permettent donc de dégager un résultat à leur activité économique. Et on ne peut pas leur en vouloir, honnêtement. Nous, clients d'herboristerie, on peut être très critique, on peut s'affiner l'esprit par rapport à la boutique dont on va pousser la porte, mais on ne peut pas en vouloir aux commerçants de vouloir couvrir ses charges et survivre de son activité. Alors on a là derrière, au-delà des réalités économiques, des réalités législatives. Je vous ai dit qu'on allait fournir des services ou des produits. Alors les services, ils dépendent de la personne. Les produits, il va falloir qu'ils soient inscrits et légiférés. Alors la personne en Wallonie et à Bruxelles, il faut un statut de chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on ait fait ce qu'on appelle la gestion, qu'on ait prouvé la possibilité de faire survivre un commerce. Mais cette personne va devoir toujours être attentif, l'herboriste donc, à ne pas tomber dans l'exercice de la pharmacie, et donc l'exercice illégal de la pharmacie, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure, ni l'exercice de la médecine. Parce que là non plus, il n'y a pas de demi-mesure. On est soit hors de l'exercice de la médecine, soit dans l'exercice illégal de la médecine, ou de l'art de guérir. Donc ça veut dire pas de diagnostic, pas de posologie, rien de tout ça. C'est vraiment strictement interdit. Même si vous avez peut-être déjà vu que ça se passe. Mais ça n'est pas autorisé. Par rapport aux produits, ben, il y a toute une série d'autorisations pour la mise sur le marché. La première, c'est qu'il doit être inscrit à la pharmacopée européenne, ou bien dans la filière alimentaire européenne, hein, évidemment. Inscrit à la pharmacopée nationale. Et là, seulement ces produits-là vont pouvoir être délivrés par un herboriste, autorisé dans la chaîne alimentaire. Et donc, on a là des aliments. L'herboriste ne va pas délivrer de la belladone séchée. Ça n'existe pas. Il va pouvoir délivrer, par exemple, une granule diluée à 12 millions de fois dans laquelle il y aurait encore des... Non, il n'y a plus rien. Donc, l'herboriste va utiliser des produits qui sont inscrits dans la chaîne alimentaire ici en Belgique. Hein. Et il va donc délivrer soit des aliments, soit des compléments alimentaires, soit des novel foods. Novel foods, je vois que vous tiquez, c'est des nouveaux aliments. Souvent, ce sont des produits exotiques qui arrivent sur le marché européen et une entreprise enregistre ça comme un aliment nouveau sur le marché. Voilà. Sur le site de l'AFSCA que je référence en bibliographie, il y a toute la définition novel food et tous ces nouveaux aliments qui rentrent sur l'espace européen et plus particulièrement belge. Alors là, derrière, il y a une nécessité d'éthique parce qu'on n'a évidemment pas tout le temps un policier de la pharmacie qui est dans la boutique. On n'a pas tout le temps un contrôleur médical qui nous tombe dessus. Ça n'existe pas. Enfin, je suppose que ça n'existe pas. Ça doit exister, mais voilà. Avant tout, c'est le policier qui est à l'intérieur de la tête de l'humain qui fait qu'on va avoir un petit peu d'éthique ou pas du tout, parce que ça existe. Alors, ça se passe dans des boutiques ou des ateliers, je vous l'ai dit. Hein. Soit on vend des produits, soit on fournit des services. Et je vous ai représenté deux boutiques caricaturales, deux extrêmes. Alors, j'ai bien dit que c'était caricatural. Donc, la réalité, elle se situe entre les deux. Alors, la première caricaturale, ben voilà, on va trouver des bracelets magiques, des arbres de vie, des tarots, de l'encens. J'aime bien l'encens. On va trouver des livres avec des trucs énergétiques, vibratoires. Donc la lithothérapie, de la décoration spirituelle, des pendules, des diffuseurs d'encens et de l'encens, de la littérature. Alors leur point commun à ces littératures-là, c'est qu'elles sont non sourcées. La seule source qu'il y a, c'est le nom de l'auteur. Et alors, on va trouver quelques tisanes et puis des compléments alimentaires. Je vous ai bien dit que c'était caricatural. Alors, l'autre caricature, et ça, c'est celle qu'on a souvent en tête quand on parle d'une herboristerie, voilà, elle a, hélas, à mon goût, hélas, quasiment disparu. Elle véhicule une imagerie assez ancienne, de manière assumée, c'est un argument de vente. Il y a une grande disponibilité de plantes en termes de diversité, de formes et de variétés. Le conseil est possible et souvent de qualité. Alors, ils ne savent pas tout. Vous pensez bien que peut-être que certains Bruxellois ont reconnu l'herboristerie d'en bas. Vous pensez bien que l'herboriste dans cette boutique ne connaît pas tous ces tiroirs. Il sait ce qu'il y a dans le tiroir, pas toutes les propriétés, évidemment. Mais ils sont drôlement forts. Il y a très peu de produits connexes dans ces boutiques-là. Et c'est un secteur en grand péril économique. La précédente aussi, hein, je ne l'ai pas indiqué, mais cette boutique caricaturale-là aussi, il ferme, enfin, boutiquée, mais il ferme aussi. Il ferme aussi. Les charges sont très élevées et ce n'est pas simple de faire tourner une boutique. Et c'est encore moins simple dans un secteur de niche comme celui qui ne vend que des plantes séchées ou des extraits de plantes séchées. Alors, ce qui marche actuellement, c'est les boutiques en ligne. Là, on en parlait encore avec ma camarade Chloé sur la route. Ils ont des possibilités extra-frontalières. Ils ont la confidentialité. C'est évident que si moi, monsieur de plus de 50 ans, j'ai des troubles érectiles, de pousser une boutique qui vend des plantes et d'en parler comme ça, c'est plus difficile que de... Avec le moteur de recherche de la boutique en ligne, taper dysfonction érectile, c'est beaucoup plus facile. Alors, ils ont la disponibilité des plantes extra-frontalières dans l'Union européenne. Toutes les huiles essentielles n'ont pas la même autorisation de mise sur le marché en France ou en Belgique. Alors, il y a un petit trafic entre la France et la Belgique pour des plantes qui sont autorisées sur un marché, pas sur l'autre. Il y a aussi la disponibilité extra-européenne. Alors, je vous ai mis là-haut deux plantes qu'on ne peut pas avoir sur l'espace européen. Si vous faites une toute petite recherche, vous allez très facilement vous faire livrer ça. Il faut l'avouer, sans grand risque de problème à la frontière. Voilà. Alors, ces boutiques en ligne proposent aussi souvent un détournement de l'usage. Pas que les boutiques en ligne, je le fais aussi parfois. C'est-à-dire que si une plante n'est pas autorisée dans la chaîne alimentaire, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas la proposer comme pot pourri pour aromatiser la pièce et se retrancher derrière, un peu honteusement, derrière le... je ne suis pas responsable de ce que le client fait chez lui. Voilà. Et c'est vrai, on n'est pas responsable de ce que le fait le client. Pensez bien, un fleuriste qui vend du muguet au 1er mai, il n'est pas responsable si le client s'en fait une soupe après à la maison. C'est un peu difficile. Mais voilà, la chose est réelle. Il y a un détournement de l'usage de certaines plantes. On les place en produits à vaporiser, par exemple. Donc, au lieu de fumer, on va vaporiser. On va pouvoir mettre la plante dans un appareil qui va chauffer. Voilà. On peut tomber, évidemment, très facilement sur des falsifications. Donc, la plante attendue n'est pas celle n'est pas celle qui a été livrée. Ça peut aboutir à des situations très dangereuses, voire mortelles. Et on peut tomber sur des contrefaçons aussi. Donc, la contrefaçon, là, c'est volontaire. C'est... Je vends par exemple à madame de l'armoise. Alors armoise, ça recouvre plusieurs plantes. Madame m'a demandé une armoise. Je lui vends celle autorisée sur le sol belge plutôt que celle qu'elle pense recevoir en tout cas. Elle ne m'a pas donné le nom latin. Je vais jouer là-dessus. Enfin, la nomenclature binomiale. Et puis, il y a tout un réseau aussi de circulation de plantes qui s'appelle le Dark Web. Et là, c'est open bar. Et rien n'est contrôlable, ni au départ, ni à l'arrivée, ni dans les conditions de culture. Rien. Alors, les ateliers, ça, c'est une autre possibilité de faire tourner la boutique. Les ateliers, ils sont très nombreux. Si vous cherchez un petit peu dans les groupes Facebook, dans divers réseaux sociaux, vous allez en trouver à l'appel. Et ils sont aussi très divers. C'est-à-dire qu'on va trouver de l'atelier qui va vous proposer de composer votre tisane de manière très honnête et très sérieuse, comme la découverte énergétique d'une plante. Donc on va avoir de tout aussi en termes de prix, de qualité. La seule chose qui ne va pas changer, c'est qu'ici en Belgique, tous ces ateliers sont soumis à une TVA de 21%. C'est-à-dire que si avec madame, là, je fais un petit atelier de préparation cosmétique, bien, l'État sera là présent à concurrence d'un peu plus d'un cinquième. C'est vous dire combien la tentation de faire ça sans facture est grande. Hein ? Ceci dit, les ateliers, c'est aussi un peu la seule manière de pratiquer réellement les techniques d'herboristerie, sans tomber dans un exercice illégal de la pharmacie. Donc, le client vient, le contrat est clair, je vais t'apprendre à transformer cette plante en une pommade, et le client réalise son produit. Et nous sommes là pour dire un petit peu moins de cire, moins chaud, tu évapores les huiles essentielles, voilà. Alors malheureusement, ces ateliers comportent parfois des soins. Là aussi, la tentation est grande de faire bouillir la marmite en élargissant le panel d'offres. Et donc, si vous désirez un jour aller vers des ateliers, je vous conseille évidemment de vous questionner sur qui est derrière cet atelier et surtout quels sont les objectifs que vous attendez et qui sont proposés. Si vous avez des objectifs bien définis et que l'atelier va répondre à ces objectifs, normalement, il n'y a pas de surprise. Normalement, vous allez avoir... en avoir pour votre argent. Bienvenue. Alors, les herboristes, on est toujours à deux doigts des phytothérapies. Évidemment, on utilise les plantes et elles sont demandées par un client dans un but thérapeutique ou dans un but de mieux-être au minimum. Et on peut différencier deux grandes mouvance dans la phytothérapie, et selon moi, elles ne s'opposent pas. Elles sont là présentées dans un tableau, mais ne devraient pas être aussi opposées que ça. Donc la traditionnelle, et on l'a vu dans l'historique, elle a une approche holiste. Alors, c'est pas mon truc, l'approche holiste. Vous savez, dès qu'on me parle d'esprit, d'âme et d'énergie, moi, je décroche un petit peu. Peut-être que je n'ai pas d'âme, j'assume. Ou peut-être que je l'ai vendue. Voilà. Et en face, on a une approche plutôt symptomatique. Voilà, la dysfonction du foie, où je vous ai parlé de la dysfonction érectile. Donc, on va cibler un symptôme. Or, dans la traditionnelle, on va avoir des préparations plutôt domestiques avec des solvants courants. Et dans l'extraction moderne, enfin, dans la phytothérapie moderne, on va isoler plus efficacement les principes actifs avec d'autres solvants que les traditionnels, en jouant sur la pression, sur la température. Alors, les solvants courants qu'on peut utiliser facilement dans une cuisine, on a l'acide acétique sous forme de vinaigre, on a l'éthanol sous forme de... Ici, en Belgique, on a la chance d'avoir de l'alcool 96. On a évidemment l'eau. On a facilement accès à de la glycérine et on a les huiles. Là, on a fait à peu près le tour de ce qu'on retrouve dans une cuisine. Évidemment, quand on passe au labo, on peut s'amuser avec de l'hexane, avec de l'éther, du butane. Il n'y a plus de limite, on peut être plus fin. Alors, en traditionnel, on va avoir des remèdes qui sont non standardisés, mais ça ne veut pas dire que les remèdes sont mauvais non plus, hein. Moi, je n'ai pas dit ça. Alors qu'en phytothérapie moderne, on va pouvoir standardiser plus efficacement le remède et probablement cibler mieux des symptômes. Alors, du côté plus historique, on a la validation des bienfaits par l'expérience issue de la tradition et de l'observation, ce qui nous a quand même permis d'avancer pendant près de 3000 ans. Hein. Faut pas négliger ça. D'un autre côté, depuis maintenant 200 ans, on a quand même une validation des bienfaits par la science. On a des analyses biochimiques. Depuis une cinquantaine d'années, on a des essais cliniques qui sont de plus en plus efficaces et de plus en plus précis et de moins en moins questionnables et on ne sait plus les remettre en cause. Et donc, on a la méthode empirique et la méthode scientifique. Je vous répète que, selon moi, les deux approches ne sont pas diamétralement opposées. D'ailleurs, il y a tout un domaine qui permet de joindre les deux, qui est l'ethnopharmacologie, avec des pharmaciens tout à fait modernes issus des laboratoires avec les plus grands noms de Big Pharma. Hein. Je déteste ce mot. Je vous le confie. J'ai toujours l'impression de voir une entité très nébuleuse s'approcher de moi quand on dit ça. Et puis, en réalité, ça n'existe pas. Hein. Mais il y a des laboratoires qui ont suffisamment d'argent pour envoyer des pharmaciens pendant des années avec une équipe d'ethnologues et de botanistes sur le terrain pendant des années pour trouver des validations de remèdes traditionnels ou de nouveaux traditionnels, d'améliorer les médicaments traditionnels aussi. Hein, donc les deux ne s'opposent pas forcément. C'est très réducteur de le penser. Alors je vous ai dit qu'on allait aussi parler des galéniques et c'est ici qu'on va pouvoir se faire plaisir. Voilà. Alors, grosso modo, l'herboriste en boutique ne fait pas ça. Grosso modo, tout ça se passe via des ateliers ou via du conseil de vente. Alors, on a l'eau, hein, les préparations aqueuses, infusion, décoction, macération de plantes à froid. On sait fabriquer des sirops. C'est très amusant, ne fût-ce que pour fabriquer un petit sirop de mélisse pour les enfants, c'est sympa. Sans même y chercher une visée thérapeutique, je veux dire. Hein, en termes culinaires, c'est chouette. On a les bains, pratique qui se perd. On a les poudres de plantes, des macérations. Alors ça, moi, j'aime beaucoup. Les alcoolatures, les macérats huileux. On s'est arrivé à une bonne précision de transformation de plantes. On a la gémothérapie. On a l'homéopathie. Puis on a...
Tu peux expliquer la gémothérapie,
je sais pas. Oui, on va y revenir, on va y revenir, oui. Oui. Alors, on a la distillation, donc les distillations à l'eau de plantes fraîches hein, pour aller extraire les huiles essentielles. On a des compresses, ça aussi, ça se perd, les emplâtres, les compresses. L'inhalation se perd aussi, pourtant une chouette méthode. Et puis, on a d'autres outils non végétaux comme les argiles et les produits de la ruche. Or, en illustration, je vous ai mis du folklore. Il n'y a plus personne qui font des suppositoires. Allez savoir pourquoi. Mais par contre, il y a beaucoup de monde qui se lance dans la distillation. Allez savoir pourquoi aussi. Je ne sais pas. L'un semble plus sympa que l'autre. Alors dans la galénique, je vous ai dit des monstres sacrés hein, et on peut se faire plaisir de temps en temps. L'homéopathie, je ne vais plus vous la présenter, évidemment. Alors, elle a fait la preuve de son absence d'efficacité, au minimum, et d'un danger pour la santé, ne fût-ce que dans le report de soins ou dans l'absence de soins. Et pour moi, dans mon avis, et je pense inclure Folia officinalis dans son ensemble, c'est un danger pour l'herboristerie. On voit là sur le tube le nom d'une plante. On va penser qu'il n'y a pas d'efficacité à la plante, voire une innocuité. Or que là, c'est de la belladone. Belladonna officinalis, ça rigole pas. À cause de cette homéopathie, ben on va évacuer aussi dans le lot. Vous savez, comme on tire l'eau du bain, le bébé part avec, hein, part avec l'eau. On évacue un petit peu trop vite les teintures mères, qui je vous l'ai redit, est une façon sympa d'extraire les principes actifs des plantes et de les conserver à très long terme. Voilà. Pour moi, c'est un ennemi de l'herboristerie. Alors que le laboratoire qui a illustré là fait au minimum un chouette produit, mais pas en granules. Alors dans ceux qu'on peut aussi, qu'on aimerait évacuer du secteur, il y a les élixirs floraux de Bach. Là aussi, hein, on a comme avec Saint-Hildegard, une illumination qui apparaît à ce monsieur Bach et qui lui dit par intuition que telle plante va être très adaptée à tel état émotionnel, hors tout empirisme en plus. Lui, il sort vraiment des sentiers battus qu'on avait pu observer pendant des siècles. Et lui aussi, c'est un danger pour l'herboristerie, parce que là, on évacue trop vite l'ensemble des alcoolatures. Toute plante trempée dans l'alcool, si on se base sur son idée, ben ça ne va pas. Or je vous le répète, les alcoolatures, il y a moyen de bien travailler. Ça induit aussi de la pensée d'un manque d'efficacité, évidemment, vu que ça ne marche pas. Ou d'innocuité. Et là aussi, les plantes qu'il utilise ne sont pas toutes dépourvues d'innocuité. Et puis, le brandy dans lequel il trempe ses plantes, non plus. Hein, l'alcool, on connaît bien ses méfaits sur notre société moderne. Et alors lui, il y a encore un truc qui m'embête plus dans ce remède-là. Il y a la question de l'énergie que l'humain pourrait percevoir chez la plante. Alors là, il y a toute une grande mouvance. Je capte l'énergie de la plante. La plante m'a dit qu'on pouvait m'utiliser comme ceci. Alors je vais un peu foncer parce qu'il me reste une minute, si je vois bien. Non ? Or, dans les galéniques modernes, dans les galéniques modernes, et peu de monde s'est encore penché sur le cas de ces produits-là, mais selon moi, l'affaire est pliée. Hein. On a la gémothérapie, tu posais Mathias la question là. Alors ça, c'est une invention belge, Cocorionte, de M. Paul-Henri, puis Jean-Claude Lenis, Philippe Andriane dans l'actualité, là, hein, c'est lui qui anime beaucoup ça, et qui part du postulat que le méristème de la plante contiendrait toutes les propriétés qu'il appelle énergie informative, c'est très embêtant aussi, et ces bourgeons de plantes, les méristèmes, seraient donc trempés dans trois solvants en part égale, donc un tiers d'eau, un tiers de glycérine, un tiers d'éthanol. Alors, les écoles divergent sur la quantité de matériel végétal à mettre dans les trois solvants, mais la plus efficace, si efficacité il devait y avoir, décrit que c'est une part égale de matériaux végétal pour une part des trois solvants. Alors, moi, je me demande vraiment quels sont les méristèmes qui seraient intéressants dans l'histoire. Si vous y connaissez un tout petit peu en plantes médicinales, on a les métabolites primaires et les métabolites secondaires. Alors, la pharmacologie, elle s'est intéressée aux métabolites secondaires et à juste titre, c'est là qu'on trouve toutes les molécules actives. Dans les métabolites primaires, bah oui, on a des trucs intéressants, mais pas tant. Et je me demande vraiment, dans les méristèmes, quels seraient ceux qui contiendraient des substances actives réellement. Moi, je n'ai pas la capacité de le faire. J'invite, s'il y a des biochimistes dans la salle, à se lancer dessus et à étudier le truc. Mais au minimum, j'ai un signal d'alerte là. Hein, les métabolites secondaires, ben, ils ne sont pas présents. Alors, si des méristèmes sont intéressants, ben, lesquels bénéficieraient de ce 3/3 qui est assez primaire selon moi comme mélange? Alors, je ne dis pas que la glycérine n'est pas intéressante comme solvant. Je dis, tiens, 3/3 pour l'ensemble des plantes, bizarre, un peu facile. Et ça ne ressemble pas au reste de tout ce qui a été fait avant. Alors, autre chose qui me semble très étrange, c'est que leur référentiel, il est immuable, ou presque. Il n'y a rien qui en sort, il n'y a rien qui y rentre. Voilà. Voilà. Alors, dans l'histoire des métabolites secondaires dont je vous ai parlé, il y a le concept de métabolome. Donc, c'est un instantané des métabolites présents dans la plante, en tout cas dans le tissu. Mais c'est instantané, moi il me semble que c'est pas égal suivant le moment de la récolte. Voilà, là non plus j'ai pas du tout le champ de compétences pour aller analyser ça, mais c'est volontiers que je passe le boulot à quelqu'un de compétent. Alors comment devient-on herboriste? Ça c'est aussi une bonne question. Il y a plein de formations privées. Plus ou moins chères, plus ou moins bonnes. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, évidemment. Et il y en a des subventionnées. C'est-à-dire qu'il faut avoir le CESS. Pour les Français, c'est l'équivalent du bac, donc de la fin de l'école secondaire. Un accès à l'enseignement supérieur, un accès à l'enseignement supérieur. Et c'est organisé par les régions, région de Bruxelles-Capitale ou région Wallonne. Les instituts s'appellent EFP pour la région Bruxelles-Capitale et IFAPME pour la région Wallonne. Et ils organisent cette formation qui s'appelle chef d'entreprise en herboristerie depuis 2011. Donc ça fait une grosse dizaine d'années. Et puis c'est validé, hein, comme beaucoup de diplômes en Belgique, par la communauté française Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, j'ai désormais un beau diplôme de chef d'entreprise pour la profession de herboriste. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit au départ, ce n'est pas une profession protégée. C'est-à-dire qu'il y a plein de métiers en Belgique qui sont protégés à l'accès, ce qui me semble normal. Hein. Je ne vais pas aller rentrer dans un restaurant où le gars n'a jamais cuisiné. Hein. Il faut qu'il ait un minimum d'hygiène, un minimum de compétences pour pouvoir ouvrir son commerce. Pareil le coiffeur, même s'il y en a qui me ratent. Mais non, il m'a réussi. C'est moi qui suis capricieux du cheveu. Voilà, donc le métier n'est pas protégé. Il suffit d'avoir un accès à la gestion d'un commerce pour s'installer herboriste. Hein, voilà, c'est simple. Que contient cette formation? Ben, c'est 2 ans. 2 ans, alors pour vous donner un exemple, je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, mais j'ai moins de 80 heures de domaine médical. Hein, ou ce qui s'apparenterait au domaine médical. Ça s'appelle anatomie et physiologie diététique. Sur les 2 ans, j'ai moins de 80 heures. J'ai moins de 50 heures de botanique. Voilà, c'est pas énorme. Hein. C'est plutôt une remise à niveau d'un bon niveau d'enseignement secondaire. Et le grand mérite qu'a eu cette formation, c'est de me remettre à niveau et de pouvoir en continuer d'autres ou de pouvoir continuer à me documenter. Je peux lire une thèse de pharmacie. Voilà, par exemple, un texte de biochimie, même en anglais, ça va, je comprends les tenants aboutissants. Je peux, avec un petit peu d'effort intellectuel, comprendre un mécanisme physiologique simple, hein, sans rentrer dans des subtilités. Et voilà, ça me permet d'aller plus loin. Ça, c'est plutôt la réalité que j'ai vécue dans cette formation-là. Et donc, ça permet d'aller vers des prolongements aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? En Belgique, on n'a pas grand-chose à ma connaissance. On a l'Université de Liège qui fait un certificat d'université. Attention, il n'est pas accessible à quelqu'un comme moi qui soit juste herboriste. Il faut que le candidat soit issu du milieu médical ou en études dans le milieu médical. Et donc, c'est phytothérapie dans le contexte de l'evidence-based medicine. Michel Frédéric qui organise ça. Quelqu'un avec qui on aimerait avoir plus de liens. Peut-être qu'il m'entendra, on me verra. Et Michel Frédéric. Alors, il y a la Société française d'ethnopharmacologie à Metz qui organise chaque année une formation d'une semaine pour préparer quelqu'un à remettre un mémoire en ethnopharmacologie. Et c'est drôlement intéressant. Il y a aussi un DU en ethnobotanique à Grenoble et puis d'autres DU plus ou moins apparentés à cela en France. Donc la France conserve un système de diplôme universitaire pour des choses très précises qui sont à la limite hors secteur académique, hein, si je ne dis pas de bêtises. Alors les liens troubles qu'on a évidemment dans ce secteur, sans caricaturer là, c'est un secteur qui est immensément féminin. On n'est pas beaucoup de monsieur ici en Belgique.
C'est eux qu'on écoute.
C'est eux qu'on invite à parler. Et tu pouvais avoir ma place ce soir ?
Non, c'est vrai.
Alors, les liens troubles qu'on a dans tout ce secteur, je vous l'ai déjà cité, c'est l'homéopathie. Alors, on a l'anthroposophie qui pousse la porte de la boutique sans arrêt. Alors, on a là des marques et même des labels qui sont dédiés à ça. On a le Wicca et nos camarades les sorcières. Le holisme, mais dans son sens dévoyé, et non pas comme je l'évoquais dans le double tableau tout à l'heure. Le quantisme, et non pas dans son sens scientifique, mais dans un sens étrange. On a la lithothérapie, l'argilothérapie. Alors tout à l'heure, on a un peu rigolé avec l'intelligence artificielle. On a été trouver la trichothérapie, mais la trichothérapie, c'est-à-dire avec les cheveux, mais aussi avec le tricot, suivant qu'on l'écrive d'une façon ou d'une autre. On a plein de littérature New Age. On a les soins énergétiques et tout ce que vous pouvez imaginer dans ce secteur-là.
Le chamanisme.
Alors étonnamment, je repère assez souvent ce qui manque. Je n'ai jamais vu de vaudou dans aucun de ces magasins. Réducteur de tête et vaudou, visiblement, ça n'attire pas les foules. Alors, on a aussi des liens médicaux. Bon, là, c'est beaucoup plus nuancé. Parce qu'on a au minimum, les herboristes, si on va vendre des plantes, on a au minimum l'obligation de connaître la toxicité, des contre-indications et des interactions. Ça, pour moi, on n'y coupe pas. Je ne peux pas laisser partir un sachet de millepertuis dans les mains d'une jeune fille sans lui dire « Écoute, jeune fille, ça ne me regarde pas, mais sache qu'il y a des très grandes contre-indications avec la contraception par voie orale. » Pour vous donner un exemple parmi cent autres. Et là, vraiment, l'herboriste a un moment éthique fort à jouer. Et sans empiéter aucunement sur le moment du médecin. Et ça, c'est très délicat. Parce qu'il y a évidemment l'idée que ce qui vient de la nature est naturel et qu'on open bar. Alors, des demandes vraiment médicales des clients, elles sont très rares. Il y a une histoire de confidentialité. Peut-être que j'attire pas ça non plus. Peut-être que je dis assez facilement, vous savez, moi, la physiologie, voilà. Voilà. Mais elles existent. Hein. Je peux vous fournir plus tard des anecdotes. Ça existe, mais c'est très rare. Et la réalité, c'est que quand elle arrive, systématiquement, je dois répondre, écoutez, je dois me documenter. Non pas parce que je connais rien en herboristerie, c'est pas pour ça. C'est parce que c'est tellement ciblé et pour des trucs étranges que je dois me renseigner. Les demandes venant du corps médical, donc un médecin qui me téléphonerait, qui me demanderait un conseil par rapport à une plante, ça n'existe pas. C'est simple. Je n'ai encore jamais entendu de... Si, à un barbecue, en discutant avec une pharmacienne, on échange des petits mots comme ça, mais en termes de réseau professionnel ou de professionnalité, ça n'existe pas. Par contre, si je communique avec le médecin moi, herboriste, et que je lui dis, tiens, je consomme telle plante, le médecin est très à l'écoute. Donc il ne faut pas non plus venir dénigrer la médecine. Ce serait un peu faire le travail à l'envers. Le médecin, lui, est à l'écoute. Et quand j'ai dernièrement interpellé le médecin sur la présence d'une série de plantes communément consommées par rapport à un médecin, à un médicament qu'on prescrit beaucoup dans ma région, bah, il a été très attentif et a dit « Oui, je vais être communicante avec mes patients par rapport à ce médicament. » Par contre, qu'est-ce qu'on a là à jouer aussi, nous, herboristes, par rapport à la médecine? On a beaucoup de choses à aller apprendre avec humilité et discrétion dans les médecines traditionnelles. Alors, attention, moi, je ne vous cite pas d'aller viser dans l'Ayurveda ou compagnie. Je vous dis, par exemple, utilisons la base de données Prélude. Base de données Prélude, elle référence l'usage de plantes dans toute une série de traditions. Et voilà, on peut utiliser des bases de données de médecine traditionnelle. On peut aussi aller réfléchir à ce que l'OMS appelle les médicaments traditionnels améliorés. Parce que oui, on sait utiliser des plantes à but médicamenteux, à but thérapeutique, en les améliorant. On a tout un corpus qui est là et qu'on peut encore développer.
Slide.
47 encore. Non, encore 3-4. Encore 3-4. Ça va pour tout le monde? Oui.
Moi, pour celui qui va faire le montage vidéo, mais ça va.
Impact environnementaux de la chose. Bon, on n'est pas encore face à un drame, mais ça s'inscrit dans une extinction de masse. On a un marché en croissance, surtout ici en Europe du Nord, en Amérique du Nord aussi. Le syndicat des produits diététiques français ciblait en 2021 une augmentation de 6% pour les compléments alimentaires. C'est vraiment pas mal pour un produit de non-nécessité. Et pour les tisanes, là, on a encore plus. On a 11,5% d'augmentation, ce qui est vraiment étonnant pour une forme de médication ancestrale. Chiffres à inscrire avec une histoire de pandémie aussi. Hein. Attention. Zut, c'est pas là que je devais cliquer, voilà. Donc on a des ressources limitées. 60 000 espèces de plantes à usage médicinal, on en utilise, qu'on utilise, comme potentiel en tout cas, comme réservoir. Dans ces 60 000, il y en a quand même 15 000 qui sont en voie d'extinction, à plus ou moins à long terme. Alors on peut discuter sur les listes où elles s'inscrivent, mais quand même, à plus ou moins à long terme, elles sont en voie d'extinction. Pas seulement à cause de l'herboristerie, hein, évidemment. Mais ce marché de l'herboristerie est quand même de 60 à 90% d'origine sauvage, suivant les régions d'Europe. Et dans ces plantes-là, 20% sont déjà mises en danger. Là, on doit arrêter avec certaines plantes. La main-d'œuvre, elle, ça représente un secteur très difficile et économiquement mis très à mal. Ce sont les cueilleurs et les cultivateurs, ils sont à la base de la filière. Ce sont les plus mal payés de la filière. Le mieux payé étant le distributeur final, hein, bien souvent. Alors, on fait face évidemment à la recherche d'une main-d'œuvre à très très bas coût et donc une main-d'œuvre étrangère, que ce soit aux confins de l'Europe, ou que ça soit dans des endroits aux conditions de travail intolérables dans certaines zones du monde. Mais souvent, l'apport économique de cette cueillette est une nécessité économique pour ces gens-là. Donc il ne faut pas non plus le nier. Dans les impacts environnementaux dont on doit tenir compte aussi dans l'herboristerie, il y a le sol. Donc l'accès à la terre, il est en réduction, ça tout le monde le sait, et ce qui est encore accessible est de plus en plus cher. Toutes les espèces ne sont pas cultivables. Il y a des plantes sauvages qui s'appellent plantes sauvages, à raison, elles ne vivent que dans un milieu bien précis. Lorsqu'on les cultive, il peut y avoir involution de la plante ou modification des métabolites hors milieu naturel. Alors je vous ai mis en illustration une plante que j'aime beaucoup et qui a donné nom à une entreprise d'herboristerie, c'est Althea officinalis. C'est la guimauve. Ben, sur les 30 dernières années, selon les chiffres que j'ai été consulté, elle n'a été vue que 4 fois en milieu sauvage en Wallonie. 4 stations, on va dire. Moi, je suis sidéré de voir ça. C'est une plante d'une culture extraordinairement facile, dont les graines ont un capital, une facilité à se ressemer relativement grande. Voilà. Je ne dis pas non plus que c'est l'herboristerie qui a fait disparaître la guimauve. C'est une plante qu'on cite dans les remèdes de grand-mère fréquemment pour un tas d'usages, pour ses principes émollients, notamment avec les gencives des bébés. Le fait est qu'on ne l'observe quasiment plus en milieu naturel, alors qu'elle est bien de nos régions. Voilà. Alors un impact que je ne comprends pas bien, et je vais vous dire pourquoi je ne le comprends pas bien, c'est l'impact économique. Sous le côté du consommateur. Voilà. Ces remèdes d'herboristerie ont un coût relativement élevé et je pose la question d'une forme de luxe. Bon, c'est-à-dire qu'un sachet de tisane, ça fait environ 25 grammes. On paye 4 à 8 euros. 4 à 8 euros qui vont permettre de faire 3 à 7 jours. Voilà, on va prendre une tisane refroidissement. Appelons-la refroidissement. On ne peut pas donner des allégations médicales. Hein. Voilà, j'ai appelé ma tisane refroidissement. 25 grammes, je la vends 4 à 8 euros. Elle permet de 3 à 7 jours de traitement. Ça fait 16 à 80 euros par mois. Moi, les derniers médicaments que j'ai été achetés, j'en suis à moins de 10 euros par trimestre. Bon, ça fait quand même une fameuse différence. Alors, si c'est efficace, ben tant mieux. Ok, tu as choisi de te soigner avec de la tisane, tant mieux si c'est efficace. Et si c'est inefficace, ben, au pire, tu as perdu des sous. Non, au pire, tu as retardé tes soins, tu as aggravé ta maladie, tu vas devoir être pris en charge par, par un autre mode de soins que l'herboriste, en tout cas. Moi, ce que j'y vois, c'est d'un côté l'histoire des bénéfices individuels et de l'autre côté l'histoire des coûts collectivisés. C'est-à-dire que j'ai le confort économique de me soigner avec des tisanes, j'y vais et si ça ne va pas, j'ai toujours le médecin en parachute hein, et une bonne pharmacie derrière moi. Voilà, c'est ce qu'on appelle en libéralisme, l'aléa moral, et je pense qu'on est en plein dedans dans cette herboristerie. Voilà. Et pour finir, un peu de littérature utile à l'herboriste, selon moi et Folia officinalis. Alors les thèses de pharma, évidemment, il y a plein de gens qui ont travaillé pendant des années sur un sujet. Ah, tu sais bien, Mathias. Qui travaillent sur un sujet précis, très ciblé, qui font des heures et des heures de comparaison, de confrontation à leur pair, et qui un jour publient un ouvrage qui parfois tombe dans les oubliettes. Eh bien, allons nous servir. Il y a les monographies, une monographie de différents niveaux, hein, les européennes, les nationales, que ce soit belge, française, les pharmacopées nationales, belges, françaises, toujours utiles. Les Allemandes reprennent des termes tels que homéopathie, mais sans tomber dans les dilutions extrêmes. Donc, n'ayez pas peur du mot homéopathie. Il peut revêtir diverses formes. Alors, les revues de tout type. Hein, moi, j'aime beaucoup les revues de pharmacie, mais il y a des revues d'ethnographie, il y a d'ethnologie, il y a des revues de médecine très accessibles. Alors, les articles zététiques, ça, c'est un pur bonheur parce que il y a aussi là un corpus qui se construit et qui peut nous mettre la puce à l'oreille pour un tas de choses. On peut évacuer en tout cas beaucoup de choses de notre pratique grâce à eux. Il y a des étudiants qui ont des cours de zététique en France et qui, enfin de méthodologie de science, et qui pondent des articles qui sont d'assez bonne qualité, hein, il faut le dire. En tout cas, ils y ont passé des heures et ça vaut la peine d'aller y travailler. Très intéressant dans la littérature aussi, tout ce qui va présenter des limites, des critiques, qui va s'opposer à ça. Ça, c'est aussi pur bonheur, parce que de rester dans sa tour d'ivoire, de s'alimenter avec ce qu'on croit être bon, on tourne en rond. Hein. Alors, il y a les pharmacognosies. Il y a un ouvrage connu sous le nom de Le. Vous savez, quand on a mis son nom à un ouvrage, ça devient Le Dorvaux, Le Bruneton. Alors, Dorvaux, j'adore jusqu'en 1912. Enfin, un petit peu avant 1912, parce qu'on a là toute une série de plantes qui sont encore autorisées et qui sont tombées avec l'interdiction sur les opiacés. Et la pharmacie, à l'époque, a encore du matériel qui est assez accessible pour nous dans des cuisines ou un tout petit labo. Donc, c'est vraiment chouette de consulter cette époque-là. En plus, ils ont déjà pas mal avancé. Bruneton, Wichtel et Anton. Ganora, là c'est un petit peu moins scientifique, mais passionnant, parce que c'est une dame qui a beaucoup travaillé sur les formes modernes de transformation des plantes, mais en Amérique du Nord. Et alors tout ouvrage qui va parler des interactions contre-indications, évidemment, extrêmement utile. Et des références, voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, j'ai été plus long que prévu. Désolé. Plus long que prévu, mais vous comprenez que c'est difficile de synthétiser autant en très très peu.
Tu as parlé de nombreuses fois, notamment des solvants qui sont utilisés dans le cadre de votre pratique, donc l'herboristerie. Et donc je me demandais à quel point est-ce que vous utilisez des techniques un peu plus peut-être modernes dans cette pratique qui est hautement, on va dire, hautement traditionnelle. Notamment, je pense au solvant qui est utilisé pour faire le décaféiné. Je pense au CO2 supercritique, par exemple. Est-ce que c'est parfois utilisé pour faire des huiles essentielles, ce genre de choses, puisque c'est pas cher du tout, enfin relativement pas cher, et c'est un des solvants les plus efficaces actuellement, tout en étant complètement non toxique, en fait, voilà.
Moi, je sais déjà te répondre non.
Mais... Ben, Chloé t'a répondu non. alors je sais qu'il y a certains secteurs bien plus précis qui vont avoir accès à ce genre de technique, par exemple le CBD. Hein, eux, ils vont l'utiliser parce qu'ils ont un marché mieux établi. Et donc, on en revient, tu sais, à la loi de l'offre et de la demande. Tu ne vas pas investir dans une transformation hors domestique, vais-je dire, si tu n'as pas la certitude d'un débouché. J'ai découvert tout récemment, c'est-à-dire cette semaine, les Open Biolab. Et je me dis que là, les herboristes ont une carte à jouer d'aller pousser les portes de ces labos et de pouvoir échanger, apprendre de là. De un, par l'accès au matériel, mais pas seulement l'accès. Tu sais, il y a la question de la sécurité. On n'est pas du tout formé à l'utilisation d'un labo. Or, ne fût-ce que la verrerie qui éclate, bon, ça peut déjà faire du dégât. Mais de la bonne manipulation, tous ces produits, aussi en termes de, non pas de sécurité, mais d'efficacité du produit, et de savoir quelle démarche de laboratoire on doit obtenir pour avoir... quelle démarche de laboratoire on doit mettre en œuvre pour obtenir le résultat. À titre personnel, j'en ai lu quelques-unes, des plus avancées comme ça. Je peux comprendre la démarche jusqu'à un moment, donc comprendre intellectuellement, je veux dire, hein, pas que je vais m'opposer à la méthodologie, mais je ne suis pas totalement outillé pour ça. Il me manque vraiment de la pratique de laboratoire et du contact avec la paillasse.
Si je peux ajouter quelque chose, c'est que les plantes médicinales, on les appelle aussi les simples, entre guillemets. Il y a comme ça cette... Allez, on va pas chercher à aller trouver des solvants nouveaux ou même s'ils sont moins chers, il y a même une espèce de... Allez, oui, on va à la simplicité, au domestique. Et il y a même aussi parfois une volonté de prise de distance avec des solvants qui soient moins naturels. Et CO2 supercritique, clairement, tu n'as pas cette... Enfin, en tout cas, dans l'esprit des herboristes, tu n'as pas ça. Même la glycérine, il y en a beaucoup qui cherchent à la remplacer par du miel ou par... Enfin, voilà, on peut discuter longtemps de ça, mais il y a cette distance critique dès que c'est quelque chose qui sort d'une transformation trop complexe, quoi. Voilà. Et aussi, ça ne se retrouve pas dans la tradition. Donc, tout l'empirisme dont on a parlé, il ne se retrouve pas.
Ok.
Voilà.
Merci. Une petite question. Tu as bien rappelé que l'industrie a récupéré pas mal de ce qu'il y avait dans les plantes et qui était efficace ou l'a copié de manière synthétique. Ma question, c'était est-ce qu'il y a encore beaucoup de plantes qui ont des effets thérapeutiques connus pour quelque chose, peu importe quoi, et qui n'ont pas d'équivalent, qui n'ont pas été récupérées d'une manière ou de l'autre par l'industrie ?
Oui et non. Parce que la grande famille des molécules, elle est établie. La classification, elle est établie. Alors, on va trouver des finesses. Tu sais, on va trouver des flavonoïdes plus adaptés à. Et lorsque j'étais me former à Metz, ils ont évoqué un nouveau champ de recherche, la prédiction phylogénétique. C'est-à-dire que sur base d'une génétique dans une famille, on va pouvoir se dire mais tiens, telle autre plante de la même famille partage un patrimoine génétique avec elle aurait possiblement un composé en commun, des composés en commun, et de pouvoir si on n'a plus accès à une ressource varier ou passer dans des plantes plus facilement productives.
C'est pas stupide. En microbiologie, on raisonne de la même façon.
Ok, merci.
Et pour encore répondre à ta question, je ne sais plus dans quel bouquin j'ai lu ça, que ces 60 000 plantes à visée thérapeutique, on peut s'en servir comme d'une bibliothèque et d'aller puiser dedans, mais... Puiser au hasard, tu sais, quand tu as 60 000 bouquins, ça ne va pas. Et donc, il faut effectivement déblayer dans quelle famille de molécules vais-je aller puiser. Et puis, une fois que tu es dans la famille, d'aller cibler plus précisément. Et éventuellement, d'une plante facile à cultiver, transformer. Voilà.
Oui, juste j'ai deux petites questions, réflexions. La première, c'est ici, tu parlais beaucoup de l'axe remède. Donc, il y a un symptôme, alors on va essayer de le soigner. Et c'est aussi là toute la concurrence avec les entreprises pharmaceutiques, etc. Mais qui vont aller breveter les molécules qui fonctionnent dans le monde végétal. Mais qu'est-ce que tu penses d'une fonction que je pense très importante? C'est la prévention dans le fait de prendre des plantes. Et ça, je pense, ça, c'est un grand avantage que l'herboristerie a. Et j'ai une deuxième question reliée, c'est sur cette question de quelles peuvent être les propriétés préventives des plantes ou après aussi curatives. C'est que je trouve qu'il y a très peu d'études sur des plantes. Peut-être parcourir des thèses, et au plus on connaît de langue, au plus on a de chance. Mais par exemple, je suivais une discussion par rapport à la maroube et j'ai trouvé une étude d'une équipe iranienne sur un petit échantillon. Et c'est très bien, mais c'est la seule. Personne ne va faire de donner de l'argent pour faire des études comme ça, qui pourtant, pour moi, sont très importantes pour aborder, pour avoir vraiment une herboristerie scientifique.
Tout à fait d'accord, mais à 100%. Et donc, on a quand même un corpus de bouquins assez complet. Donc, si tu vas aller chercher dans le Bruneton, tu ne vas pas trouver la marue parce que ce n'est pas une plante à grande efficacité et qui est aussi dans la tradition ancienne de l'herboristerie. Et donc, j'y mets pas ma main à couper, mais si tu vas dans les monographies de l'Agence européenne des médicaments, elle va être citée, il va y avoir une monographie, mais je ne sais pas si tu as déjà été voir, elles sont divisées en deux colonnes. Tu as la colonne usage traditionnel et la colonne usage bien établi. Et effectivement, on va retrouver la colonne usage traditionnel bien remplie pour le marub. Mais le usage bien établi, donc, c'est-à-dire des études pharmacologiques, non. Et l'Agence européenne du médicament fait souvent appel à études pour tout un tas de plantes. Et effectivement, ils pourraient faire appel pour celle-là. Et il n'y a pas beaucoup de réponses. Il n'y a pas beaucoup de répondants. Donc, voilà. Tu fais là un constat très intéressant. Il n'y a pas grand monde qui travaille dessus. Et ceux qui s'y passionnent ne sont malheureusement pas assez souvent dans le monde académique. Et donc les gens qui s'y intéressent ne produisent pas les textes qui vont être reçus. Voilà. Oui, c'est un peu le drame.
Et alors sur la question sur la prévention.
Oui, mais on est totalement d'accord aussi. Que l'herboristerie a bien entendu un rôle à jouer là. Je vais toutefois nuancer, parce que à te voir comme ça, j'ai l'impression que tu es plutôt en bonne santé. Hein, et c'est un processus que tu n'as pas dû atteindre avec beaucoup de difficultés. C'est un processus assez naturel, ta bonne santé. Donc je me demande si dans l'accompagnement à la bonne santé normale de l'individu, le recours à l'herboristerie, ce n'est pas une recherche de performance, d'amélioration de... ce n'est pas pour rien qu'il y a les nootropes font autant l'objet de littérature non scientifique que les... Je vais aller jusqu'au biohacking. Hein, si tu t'en vas sur des groupes d'utilisation de plantes, c'est vraiment pour une meilleure performance. Je veux être plus en forme qu'en forme. Or, on est en bonne santé, ça va, quoi. Si tu veux aller plus loin sur cette idée-là, il y a un sociologue qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est monsieur Alain Ehrenberg. Le culte de la performance et les bouquins qui ont suivi. Et alors, c'est étonnant parce que avant ça, il travaillait dans les plantes toxiques. C'est bizarre.
Bon, c'est pas grave, hein, vous pouvez attendre. Merci pour l'intervention. Alors, c'est difficile parce que j'aime bien, je suis la première à consommer un peu tout ce qui est tisane, qui est assez cher, hein, soyons honnêtes. Et pourtant, je connais bien le milieu des médicaments, pour ceux qui me connaissent. Alors, pour aider, parce que vous avez cité donc entre autres la FMPS et l'EMEA, donc il y a une chose intéressante peut-être pour aller un peu plus loin dans la discussion. Nous, il y a des médicaments à base de plantes, et ces médicaments ont des procédures particulières. Donc, pour rappel, soit elles sont des médicaments donc à base de plantes tout court, donc on a la mise sur le marché traditionnelle complète avec la preuve de sécurité, de la qualité et surtout de l'efficacité. Vous avez aussi des procédures dites abrégées, et là, à base de biographique, c'est-à-dire il faut au minimum que la plante ait été sur 10 ans utilisée dans l'Union européenne. Et donc, il y a juste, en grosso modo, à assurer la qualité, la sécurité et juste prouver que la bibliographie existe depuis 10 ans sur le territoire européen. Et vous avez une autre type de médicaments, je parle bien médicaments, traditionnels à base de plantes. Et là, c'est juste ce qu'on appelle un enregistrement. Il faut juste que la plante soit utilisée depuis 30 ans. et que les chercheurs, enfin ceux qui mettent sur le marché, montrent qu'elle a été utilisée au minimum 15 ans sur l'Union européenne. Et donc, c'est pas aussi bien que des médicaments, des allopathiques, hein, qu'on aime bien un peu distinguer, puisque dans tous les cas, la preuve de l'efficacité, sauf les médicaments à base de plantes qui sont vraiment stand-alone, c'est-à-dire vraiment avec la marketing, l'autorisation de mise sur le marché complète, à part eux, le reste, généralement, on n'a pas du tout cette partie-là de ce module d'efficacité. Ça n'existe pas. Et pourtant, enfin moi-même, hein, je suis consommatrice de tisane, tout ça, et je passe mon temps à hésiter. Est-ce que je préfère acheter quand même malgré tout un médicament à base de plantes ou un médicament à base de plantes traditionnel à base de plantes, parce qu'au minimum, je suis assurée de la qualité et de la sécurité. On a montré que, je dis n'importe quoi, hein, si vous mettez 10 grammes de feuilles de buis, bah, je suis sûre d'avoir du buis dans mon truc. Je suis sûre de ne pas avoir autre chose ou d'autres déchets. On a montré au minimum que c'est sécure, que si vous mettez 30 microgrammes de cette substance-là, je ne vais pas mourir. Voilà, j'ai au moins le minimum. Parce que avant cette formation-là réglementaire, j'adorais aller dans cette herboristerie super jolie, en bois, etc. J'avais toute confiance. Et puis, je me suis rendu compte avec la formation, en fait, maintenant, j'ai de plus en plus peur d'aller dedans parce que je ne suis pas sûre de la manière dont les plantes ont été récoltées. Je ne suis pas du tout sûre comment c'est stocké, comment ça a été fabriqué, s'il y a encore des pesticides à l'intérieur, même si c'est soi-disant bio. Toutes les contaminations qu'il peut y avoir, parce que les préparations magistrales, même côté pharmacie, elles sont loin de la qualité de ce qu'on peut attendre. Et je passe mon temps, moi, toute seule, avec mes propres, avec ma formation rationnelle de réglementaire, à hésiter à tout temps d'aller un petit peu de temps en temps dans ce genre de tisane qui coûte aussi horriblement cher. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est une réflexion juste pour remettre un peu les choses. Et parce que j'aime bien, moi, les plantes, hein, j'aime bien mon goût de tisane, j'aimerais pouvoir me dire, allez, je me passe un peu de temps en temps de médicaments, mais en même temps, j'ai envie de dire, je préfère mettre un peu d'argent peut-être plutôt pour une firme pharmaceutique ou une firme générale. Au moins, je suis sûre de ne pas crever au passage, parce que j'ai moins confiance, malgré tout, à ces professionnels, certes, mais je suis sûre de rien, j'ai aucune traçabilité de leur activité, donc je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous pourriez m'informer, peut-être des informations me manquent par rapport à ça, qui me permettraient un tout petit peu de me rassurer que je ne vais pas mourir en prenant ma petite tisane là de chez Palais d'été ou je ne sais pas d'où, mais voilà, j'ai un peu peur parfois. Voilà, merci.
Bon, a priori, si c'est sur le marché, c'est contrôlé. On a l'Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire. Et je vais te répondre en boutade. Tu vis ici à Bruxelles ? Tu vis ici à Bruxelles ?
Ah,
bon, on dirait que l'eau qu'on utilise pour faire la tisane est plus polluée que la plante qu'on met dans la tisane. Voilà, pour reprendre de l'actualité récente. Non, tu as raison, hein. Il y a très peu de traçabilité sur l'ensemble des plantes. Alors, tu peux faire confiance à certaines filières, vais-je dire, sans en citer. Si tu connais une tisanière, parce que je vais parler au féminin, parce que là aussi, on est dans un secteur économique féminin. Si tu connais une tisanière bio, fais-lui confiance. Fais-lui confiance plus à la qualité des plantes qu'à ce qui serait marqué sur le pot, que l'allégation thérapeutique sur le pot. Hein, tu vois, là j'ai bu un gingembre chaud. Ben, je n'ai pas le mal des voyages. Donc, voilà, je l'ai bu par pur plaisir. Et c'est bon. Je suppose que dans ta tisane, tu as aussi un principe appelé plaisir, un moment de consommation, voilà.
Juste voilà. Pour mal au ventre, alors qu'on me dit, quand même, c'est bien de prendre des petites tisanes là, pour le problème digestif, que de prendre des comprimés de charbon qui sont efficaces, ou de fenouil, mais bon.
Alors, j'ai envie d'ajouter, ça dépend à qui tu fais appel. On distingue les herboristes de comptoir, donc ils vendent, et les tisanes que tu achètes dans des magasins bio, magasins de thé et autres. Et ben, comme Nicolas a dit, les tisanières, tisaniers, je sais pas. Donc en Belgique, c'est surtout ça, ils font leur composition et ils sont des producteurs. Donc ils sont dans leur champ, ils cueillent, ils sèchent, ils transforment. Et là, si tu as un intermédiaire comme ça, tu peux aller dire « Ah, je peux aller voir dans ton champ et puis je t'aide un peu à cueillir, on voit comment c'est. » Et là, au moins, tu as de visu l'accès à la qualité. Mais par contre, c'est plus cher. C'est plus cher. Mais par contre, ceux qui se retrouvent dans les magasins, dans les boîtes de tisane, il y a le même souci qu'avec les compléments alimentaires, c'est qu'il y a tellement d'intermédiaires que parfois, tu as moins de la plante qui est prévue dans les gélules ou dans le sachet. Absente, pas. Il y a quand même un peu. Mais parfois, on est vraiment étonné de la qualité qui se retrouve. Et il y a peu de contrôle. Il y a peu de contrôle de qualité. Sur notre site, il y a moyen de trouver. Nous, on avait fait la liste sur le site, mais sur notre site web. Mais maintenant, il y a aussi Bio Wallonie qui a référencé pas mal d'acteurs. Voilà. Il y a une filière qui se développe, mais c'est au balbutiement, quoi. Tu avais une question.
Oui, merci. Merci Nicolas pour l'exposé. J'ai une question qui est un peu reliée finalement, mais il faudrait faire un focus sur la question de la posologie, notamment pour l'herboriste, notamment dans la formation. On en parlait justement sur la qualité, la traçabilité qui n'est pas toujours très claire. Comment c'est géré, combien de grammes d'une plante je vais prescrire ou recommander à un client. Est-ce que vous êtes formé à comprendre que ça peut varier énormément suivant, suivant l'approvisionnement que vous avez eu
Suivant
le patient aussi, le client.
Je vais évacuer les mots patient et remède, posologie.
Ouais.
En herboristerie, on utilise le concept de DJMA, qui est la dose journalière minimale active. C'est-à-dire qu'en dessous de cette dose-là, tu vas être dans de l'alimentaire. Tu sais, tu utilises du thym, tu vas mettre du thym sur tes pommes de terre, mais ce n'est pas parce qu'il y a du thym sur tes pommes de terre que tu auras une quantité suffisante de principes actifs dans le corps pour la visée que tu chercherais. Et alors, les ouvrages qui te fournissent une dose journalière minimum active sont très rares. Hélas, on ne dispose pas beaucoup de chiffres pour ça.
C'est
abordé dans la formation, tout à fait. Et mieux que ça, on nous apprend à aller retrouver les données. Parce qu'évidemment, ça change de plante en plante. Ça change de plante fraîche, broyée, mise dans une petite gélule. C'est bizarre, on ne peut pas mettre la plante dans une petite gélule. On peut la mettre dans un sachet, mais pas dans une gélule. Oui, ça change beaucoup. Le gingembre, on peut y aller. On peut être à 1,5 g à 3 g de poudre de gingembre avant d'être à l'efficacité. Mais oui, les ouvrages sont rares pour ça. Et ce qui fait qu'on va plus facilement trouver la notion de posologie, qui n'est pas de l'ordre de l'herboristerie, qui est bien de l'ordre de la pharmacie, dès que la plante a été transformée. Donc on en a fait un extrait, par exemple. Là, tu vas trouver la posologie. Et donc, parfois, on est à rebours. Tu sais, la pharmacie propose un extrait de gingembre à telle concentration, et c'est à rebours que l'herboriste va calculer ça représente combien de grammes de plantes. Voilà.
Mais par contre, ça ne peut pas être mis sur ton paquet. Sinon, exercice illégal de la pharmacie. Et donc, y a comme ça un flou entre l'herboriste qui vend le produit, mais qui ne peut pas bien le conseiller, sinon ça devient illégal. Et donc, il va dire des choses oralement quand il le fait. Et le client, il est dans le flou, quoi, parce qu'il ne sait pas comment utiliser certains produits. Et donc, c'est là où ça devient délicat, quoi, vraiment, par rapport à ça. La toute dernière, alors.
Ça va être assez rapide.
Oui.
Ma question, c'est est-ce que vous avez connaissance de si certaines herboristeries sont sous le regard de la FMPS ou de l'EMA par rapport à des exercices illégaux de la médecine ou de la pharmacie? Pardon.
Oui. Oui. Et il y a des condamnations.
Ok. C'était ma question. Parce que moi, je ne savais pas du tout.
Et il y a des peines d'emprisonnement qui sont prononcées, oui. Alors que l'emprisonnement soit effectif ou pas. Non, il y a des dossiers assez sérieux. Hein. Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. Évidemment.
Tant mieux. Enfin, tant mieux. Oui.
Je ne sais pas si on peut dire tant mieux, mais...
Pour ceux qui font n'importe quoi, oui.
Mais oui... Et peut-être qu'un jour, j'ai été contrôlé, peut-être un jour. Pour l'anecdote, j'ai quelqu'un qui a frappé à la porte de ma maison, qui n'est pas du tout un commerce, mais qui est l'adresse de mon entreprise. Cette personne est rentrée un petit peu avec la méthode pied dans la porte et m'a demandé avec insistance si je n'avais rien pour le cancer de la prostate. Alors moi, j'étais en train de justement rédiger une monographie, donc l'ordinateur, des papiers, tout ça. Donc rien à voir avec des bocaux et des alambics. Et cette personne s'est montrée insistante. Je lui ai dit, écoutez, non, moi, la médecine, la santé des humains, ça ne m'intéresse vraiment pas. Et je me suis dit, peut-être c'est un mouvement de paranoïa, hein, mais je me suis dit à plusieurs reprises... Qu'est-ce que cette personne est venue faire chez moi et pourquoi est-ce qu'il s'est montré aussi insistant et vous avez quand même bien quelque chose. Mais allez, trouvez, quoi. Alors, peut-être c'était une personne honnête au bout de sa vie et dans le plus grand des désespoirs.
Là, c'était peut-être un peu trop obvious. N'importe qui aurait pu s'en rendre compte.
Mais là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre.